Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Wow.
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous, et très heureux de vous retrouver dans une nouvelle bulle d'histoire. Je suis avec un dessinateur que j'aime beaucoup, comme toujours. Je ne vais pas inviter des gens que je n'aime pas, ça serait masochiste. Je suis avec Thomas Legrain, que j'ai rencontré il y a quelques années pour une série qui s'appelle The Regiment, qui était l'histoire des forces spéciales britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale dans le désert. Là, on se voit pour un album absolument génial, prenant, bizarre, mystérieux. C'est Lata, c'est publié par les éditions Le Lombard. Mais avant toute chose, je commence par ma question traditionnelle. Thomas, qui es-tu ?
Alors, je suis belge, je suis auteur de bande dessinée depuis une petite vingtaine d'années maintenant. J'ai commencé ma carrière en 2004. Oui.
C'est une belle carrière, en tout cas.
Tout doucement.
Donc on te connaît comme dessinateur, pas forcément comme scénariste. Là, avant de parler de l'histoire de Lata, tu signes à la fois scénario et dessin. Qu'est-ce que ça fait de devenir scénariste de son propre travail ?
Sur ce bouquin-ci, la particularité, c'est que j'avais commencé avec un scénariste, à savoir que l'idée, le pitch initial était bien mon idée, mais j'avais commencé à la développer avec un scénariste, ce que je fais souvent. Sauf que le scénariste, en fait, n'arrivait pas à développer cette idée, donc il a abandonné le projet. Mais il y avait de très bonnes bases, avaient été posées pour moi, et donc je me suis dit que c'était l'occasion, peut-être, de me lancer tout seul. Surtout que j'avais pas trop le choix, en fait, faut être honnêtement, parce qu'en fait, j'avais fini mes autres séries, et j'avais pas trop le temps de recommencer avec quelqu'un d'autre. Et donc, j'étais un peu scénariste sur ce bouquin, entre guillemets, contraint et forcé. Mais au final, ça a été une très très bonne expérience.
Oui, c'est un peu l'histoire survival scénariste, c'est un peu l'histoire de l'album.
Il y a eu un peu de ça, ouais. Je dois dire que les conditions, la jeunesse de ce projet a été quand même un petit peu chaotique. Et peut-être, en effet, ça correspond bien à la thématique du bouquin.
Alors, Lata, le titre est mystérieux. Avant de parler de l'histoire, qui est ou qu'est-ce que c'est que le Lata ?
Alors le Lata, c'est un concept en Asie du Sud-Est, assez général à l'Asie du Sud-Est, qui est en fait un état de transe en général post-traumatique. Donc c'est un truc assez particulier, pas spécialement bien, très connu dans nos contrées. Donc ça n'a pas grand-chose à voir au final avec ce que j'ai fait dans la bande dessinée, mais c'est un concept qui est connu dans la région.
Donc c'est en rapport forcément avec la guerre ou pas ?
Pas du tout.
Ton Lata à toi, il se situe pendant la guerre du Vietnam. Est-ce que tu peux nous raconter le début de l'histoire, pour donner envie ?
Pour donner envie. En fait, le début de l'histoire, c'est qu'on suit une troupe de GI américains, une escouade, qui est chargée en fait, de baliser le terrain pour le napalmage de certaines zones. Et donc, en général, ils les balisaient avec des fumigènes, et c'était leur rôle. Donc la particularité, c'est que c'est une escouade qui n'est pas du tout avec le gros des troupes, qui est en fait plutôt des éclaireurs ou ce genre d'équipe, donc une escouade, qui sont 8 hommes dans l'escouade, donc c'est une petite unité.
Donc ils sont dans la jungle.
Oui.
Ce qui est assez particulier dans ce que tu as dessiné, ce que tu racontes, c'est que la jungle, c'est un truc ouvert, c'est un truc assez gigantesque. Pourtant, toute l'histoire est construite comme un huis clos. J'ai trouvé ça assez, assez virtuose de jouer entre cette immensité et le fait que ces 8 hommes soient complètement enfermés. On a l'impression qu'ils sont dans une sorte de boîte.
Oui, c'est la particularité de la jungle. C'est un environnement en fait, qui est en effet très grand, mais qui est aussi extrêmement hostile et très, très oppressant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que situer cette histoire, qui est au final un survival, puisque évidemment, on se doute bien qu'on ne va pas que suivre les GI en train de balancer des fumigènes, puisqu'ils vont à un moment donné se retrouver confrontés non seulement à des Viet Cong, mais également à une entité, le Lata. Bon, là, je laisse évidemment découvrir au lecteur ce qu'est le Lata dans mon bouquin.
Ouais, mais il faut quand même dire un petit peu ce qui va se passer, c'est que, au fur et à mesure, un peu comme dans les petits nègres d'Agatha Christie, c'est-à-dire toutes les X pages, il y en a un qui disparaît, donc c'est aussi il y a aussi un côté policier, les gens disparaissent, on ne sait pas comment ça se passe.
Oui, la particularité, c'est que, en fait, l'ATA est un survival, c'est un genre à part entière, mais dans la plupart des survival, en général, on a des groupes qui sont très soudés. La particularité du groupe qu'on suit, c'est qu'on sent qu'il y a énormément de tensions entre eux, sauf qu'on ne sait pas très bien pourquoi. Et au fur et à mesure de leur confrontation avec la menace, on va progressivement comprendre pourquoi il y avait ces tensions entre eux. Ce qui est un peu la dynamique du bouquin.
Alors, tu parlais du survival, moi je connais pas très bien ce genre. Quelles sont les particularités du survival et comment les choses s'emboîtent, comment la mécanique se met en route et comment elle se développe?
En général, le survival, c'est on part d'un groupe et ils sont confrontés à une menace mortelle où progressivement, certains membres du groupe vont disparaître d'une manière ou d'une autre. C'est toujours ça, la dynamique du survival. Mais donc, ça doit être une menace, en général, qui doit être relativement originale, si on veut un petit peu renouveler le genre également. Mais donc voilà, c'est la dynamique du survival. Vous la retrouvez dans des films comme... une référence évidente pour l'ATA, c'est Predator. Vous avez aussi Deliverance, par exemple. Des menaces qui sont toujours strictement différentes les unes des autres. Avec, je crois, l'important dans un survival, c'est également d'avoir une menace qui représente une sorte d'effet miroir par rapport au groupe. C'est pour moi la clé.
C'est en plus un miroir déformant, puisque le lecteur ne sait jamais, jusqu'à la fin, quasiment que la dernière page, qu'est-ce qu'il y a en face d'eux, qu'est-ce qui les entoure, quoi.
Oui, c'est la particularité, parce qu'évidemment, c'est très bien de reprendre des codes du genre survival, et il faut respecter les codes, comme la plupart du temps quand on aborde un bouquin qui est très genré, mais il faut aussi évidemment savoir prendre des petites initiatives pour amener une certaine originalité.
C'est plus que réussi. Il y a une autre originalité, c'est tu parlais de Predator, moi j'ai toujours vu Predator comme ça. Bon, il y a un personnage qui vient de l'espace. Moi, j'ai toujours vu Predator comme une sorte de folie qui s'installait dans les corps des gens et que le monstre était finalement qu'une matérialisation de cette folie. Je trouve qu'on est vraiment aussi dans cette optique dans l'ATA, une espèce de traumatisme militaire où les types sont habités par quelque chose qui va les dépasser et qui sort de leur esprit.
Oui, d'ailleurs, je crois que cette analyse-là est plus valable pour l'ATA que pour Predator. La particularité de Predator, c'est que là, en fait, c'est juste des super soldats qui sont confrontés en fait, à une entité qui est bien plus forte qu'eux encore. Et ce qui était d'ailleurs toute l'intelligence du film de Predator, qui est loin d'être un film bourrin, qui est vraiment un film très intelligent, surtout à l'époque du cinéma réganien, puisque c'est un film des années 80, et l'intelligence de McTiernan, le réalisateur, dans Predator, c'est d'amener en fait le spectateur dans un premier temps à croire qu'il est en train de voir un film bourrin réganien avec Schwarzy en plus en tête d'affiche, pour progressivement verser dans quelque chose d'autre en fait, et de renverser les forces en présence. Et c'est ça qui est très intéressant, je trouve, dans le survival, c'est qu'on peut toujours amener des petites surprises d'une manière ou d'une autre.
Alors parmi les surprises, il y a le fait que ce soit une bande dessinée sur la guerre du Vietnam. Que la guerre, elle est tout le temps présente, mais en même temps, elle est diffuse. Par exemple, tu parlais des Vietcong tout à l'heure. Ils existent et on les entrevoit. Tu as jamais dessiné une confrontation militaire vraiment entre les deux parties.
Non, parce que c'est pas la thématique du bouquin, en fait. C'est aussi la particularité, c'est un... on pourrait croire au début qu'on est dans un récit de guerre sur la guerre du Vietnam. En fait, non. La guerre du Vietnam n'est qu'un contexte. Je n'ai pas du tout voulu faire une bande dessinée historique sur la guerre du Vietnam, ce qui peut être surprenant venant du dessinateur qui a fait The Regiment, qui était là par exemple, sur la création du SAS pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ici, c'est pas du tout le même état d'esprit, quoi. Mon idée, c'était de faire avant tout un survival fantastique.
Alors, il y a une autre surprise, c'est l'arrivée d'un journaliste vietnamien qui arrive en hélicoptère, un peu comme un dieu qui descend du ciel, quoi. Et on ne sait rien sur lui, personne ne sait rien, on sait juste qu'il est là pour faire des photos, mais qui est ce personnage qui est finalement assez banal et en même temps très très mystérieux?
Oui, là c'est un truc assez particulier, en plus c'est que le personnage s'appelle Win Tan Mi, si je le prononce bien, qui est en fait un véritable photographe de l'époque, qui est mort d'ailleurs au Vietnam. Et donc voilà, et ça c'était, là pour le coup, c'était pas mon idée, c'était une idée du scénariste avec qui j'avais commencé le bouquin. Je trouve que c'était une excellente idée d'ailleurs d'avoir intégré un personnage réel, qui est pas hyper connu, hein, c'est pas ça, mais... Mais c'était une manière d'apporter des éléments explicatifs, parce qu'il faut évidemment à un moment donné quelques explications de contexte. Ce personnage-là sert essentiellement à ça, mais en même temps est un Vietnamien qui, même si c'est un Vietnamien du côté des Américains, C'est quand même quelqu'un qui fait partie de la culture locale.
Oui, parce qu'il faut... faut expliquer à ces GI ce qui leur arrive, plus ou moins.
D'une manière, faut évidemment pas exagérer sur le procédé, parce que sinon c'est pas très drôle. Mais l'intérêt, évidemment, c'était aussi de... c'est que le journaliste va mettre, malgré lui, en exergue les problèmes qu'il avait déjà... va exacerber les tensions qu'il y avait déjà au sein du groupe, parce que le groupe ne sait pas si... pourquoi exactement le photographe est là, alors que normalement il arrive, comme la plupart des photographes, juste pour avoir des belles photos de première ligne. Mais voilà, donc l'arrivée de ce Vietnamien en fait en plein milieu du groupe va créer encore plus de tensions qu'il en avait déjà entre eux.
Alors tu disais que c'était pas une bande dessinée historique, pourtant quand on regarde, quand on lit la bande dessinée, qu'on regarde les dessins qui sont assez somptueux, il y a quand même un gros travail que tu as fait de documentation sur les uniformes, sur les armes, c'est très très réaliste quoi.
Oui, c'est très réaliste, mais c'est mon style aussi. J'ai un dessin hyper réaliste. Et si on veut rendre, de toute façon, le contexte... Et donc, en fait, pour qu'on aborde ce genre d'histoire, il faut avant tout, pour moi, avoir un contexte qui soit crédible. Puisqu'on s'embarque dans une histoire qui l'est beaucoup moins. Mais donc, ce que je voulais, c'était que le contexte soit un maximum crédible. Après, par rapport à un travail de documentation, comme j'ai dû le faire sur The Regiment, par exemple, je dois dire que le travail de documentation ici était quand même... a été très rapide, quelques costumes de soldats, en plus avec le gros avantage quand même, c'est que les costumes de soldats au Vietnam étaient quand même très très variables, ils faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient, et donc ce qui était en plus un élément assez intéressant parce que la plupart des soldats ont toujours leur casque, etc. Et donc pour que le lecteur puisse identifier très facilement graphiquement chaque personnage, l'avantage c'est que je pouvais complètement changer leur costume et leur donner des petites spécificités qui fait qu'on les reconnaissait quand même de loin, malgré que les personnages soient dans une jungle, en plus tout est vert, quand on s'embarque dans une histoire qui se passe dans la jungle, il y a de fortes chances que les couleurs soient avec de grosses tendances de vert. Donc voilà, il y a en plus cet avantage-là de la liberté des costumes sur le Vietnam, mais toujours la même, des GI du Vietnam, pardon. Mais ça n'empêche pas qu'ils doivent être crédibles également.
L'autre chose, moi, que j'ai beaucoup aimé, c'est la présence de la nature. On est dans la jungle, donc il y a beaucoup de nature, mais je trouve que j'ai l'impression, en tout cas, en lisant la bande dessinée, que tu as pris beaucoup de plaisir à dessiner la nature de cet album.
Oui, c'est... alors là pour le coup c'était peut-être aussi un désir de ne plus trop faire ce que j'avais fait jusqu'à maintenant parce que bon, essentiellement quand on est un dessinateur réaliste, surtout au début de ma carrière, il y a de fortes chances qu'on aille soit vers les thrillers contemporains, donc comme Cisco, qui se passe constamment dans les villes, ou de l'historique. Et j'avais envie de faire justement complètement autre chose, j'avais envie un peu de me réorienter, et je trouvais que faire un bouquin qui se passe entièrement dans la jungle, entièrement dans la nature, permettrait aussi de m'améliorer en fait, parce que ça aussi, ça ouvre beaucoup plus de liberté qu'une série comme Cisco, que j'ai adoré faire, mais qui se passe à Paris. Donc évidemment, là, on y a toujours un gros travail documentaire qui est souvent basé sur des photos. Ici, j'ai pu être beaucoup plus créatif. C'était tout l'intérêt aussi pour moi, graphiquement, de me lancer dans ce bouquin.
Et ça fait vraiment partie, je trouve, du charme de l'album, c'est qu'on est sans arrêt immergé dans cet océan vert. Et au bout d'un moment, ça devient hyper stressant, quoi. Donc on suit les soldats et on est vraiment dans le vert. On se dit, mais quand est-ce qu'on va en sortir, quoi.
Mais la jungle reste en fait un personnage à part entière, ouais. qui fait partie de la menace. Parce que je pense quand même que c'est justement des soldats qui étaient constamment en fait en tension déjà, parce que la menace peut venir de n'importe où, non seulement de l'ennemi, mais en plus de la nature dans laquelle ils évoluent. Donc c'est évidemment, je trouve... intéressant de placer un survival dans la jungle parce que la menace peut venir de n'importe où, n'importe quand.
Oui, parce que c'est un environnement qui est très étranger. Quoi.
Étranger et par définition hostile. Surtout que là, ils sont en plus très très loin de chez eux. Donc c'est ça qui est très intéressant. Puis la jungle, c'est vraiment l'opposé de nos contrées occidentales. Donc ça dépayse encore plus, mais ça paume encore plus les personnages dans leur environnement.
Alors, il faut aussi parler des couleurs, parce que t'as pas fait les couleurs de cet album.
Non.
Je sais pas si c'est toi qui fais les couleurs de tes autres albums.
Non, pas du tout.
Albums, mais là aussi, le travail du coloriste, qui s'appelle
Michael,
est absolument vertigineux.
Oui, surtout que ça a dû être un sacré boulot pour lui.
Sauf qu'il n'y a pas que du vert.
Il n'y a pas que du vert. En fait, c'est la difficulté pour un coloriste, c'est que c'est quasi tout le temps le même environnement, mais il faut réussir à le varier. Ce que je trouve que Michael a fait vraiment, en effet, avec beaucoup de brio. Donc voilà, moi j'ai été très satisfait de son travail sur ce bouquin, surtout qu'il a vraiment réussi à apporter des petites touches auxquelles moi je n'aurais pas spécialement pensé. Et puis il faut savoir que si moi j'en ai bavé pour dessiner les décors de jungle, etc., en général, si le dessinateur en bave, il y a de fortes chances que le coloriste en bave aussi. Ce qui a été le cas, mais ça a été, j'espère que pour lui ça a été aussi un travail assez enrichissant.
Ouais, je pense, parce qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de travail, il y a beaucoup de subtilité, beaucoup de nuances. Et comme tous les bons coloristes, sa couleur fait partie de l'histoire et fait avancer l'histoire.
Oui, et puis c'est le coloriste qui crée véritablement des ambiances, avec des ambiances un peu plus angoissantes, etc. Surtout qu'ici, la colorisation était particulièrement importante dans certaines séquences, et je trouve que Michael a fait ça super bien.
Comment tu as choisi les personnalités du groupe de G.I. qui est dans la jungle ? T'as fait une typologie au départ en disant il faut un peu de ci, un peu de ça, un noir, un blond.
Oui, je voulais des personnalités qui soient plutôt, qui soient très différentes les unes des autres. Mais c'était pour aussi, en fait, il y a aussi de petites tensions raciales entre eux, ce qui va sûrement arriver évidemment dans ce genre d'unité. Donc ça, en fait, les différences raciales et même quasi sociales de chaque personnage en rajoutent encore plus à la tension latente qu'il y a entre eux. Après, je ne voulais justement pas définir leur comportement en fonction de leurs origines. Face à la menace, en fait, on est tous égaux. Et donc c'était une manière aussi de sauter au-dessus de ces différences de caractère, qui ne sont d'ailleurs pas définies en fonction de la race, pas du tout. C'est juste des personnalités avant tout différentes.
Ouais, l'autre chose que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est assez rare dans ce genre d'histoire, c'est que moi j'ai réussi à m'attacher à aucun personnage. Ce qui est assez rare, mais j'ai beaucoup aimé dans cet album ne pas m'attacher, vraiment à rester toujours très extérieur au groupe et à les regarder comme un entomologiste en fait.
Bah, j'espère quand même qu'il y a un ou deux personnages qui sont un peu plus attachants que d'autres, mais c'est vrai que ce ne sont pas des personnages très positifs. Aucun ne se détache particulièrement à ce niveau-là, mais je ne voulais pas faire spécialement une histoire avec des personnages qui sont aimables. Parce que ces gars-là ne devaient pas l'être spécialement dans ce genre de situation, mais je pense quand même qu'il y a certaines personnalités qui au fur et à mesure se dégagent et qui présentent des aspects, en bien ou en mal, auxquels on ne s'attendait pas obligatoirement au début de l'histoire.
Oui, absolument. Enfin, c'est vraiment un bel album. Thomas, je te remercie, on s'est presque tout dit sur Lata. Le plus important maintenant, c'est d'aller l'acheter dans toutes les bonnes librairies. Donc je rappelle tout ce qu'il faut savoir pour se le procurer. Lata, tu es Thomas Legrain, tu es le dessinateur et le scénariste. C'est publié par les éditions du Lombard. Ça, il y a 124 pages, et c'est au prix de 23,50€.
Tout à fait.
Ce qui n'est pas très cher pour un album de cette qualité.
Et de cette taille-là, sans doute.
De cette taille-là, oui. Bon, merci et à bientôt.
Merci à vous.
Bulle d'histoire.
Hein ?
Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.
Mmh.